défaite du royaume de Tolède face aux armées de l'islam. Les Visigoths en Espagne ne sont pas vus comme des vainqueurs détruisant la civilisation, mais des vaincus qui ont échoué face à une armée de conquérants. Et on a longtemps argumenté en Espagne sur cette incapacité politique et militaire du royaume Visigoth à défendre l'Occident. Alors il faut bien voir que cette mauvaise réputation n'est quand même pas constante à travers l'histoire. Au IXe siècle, les Visigoths ont une excellente réputation et Charlemagne préfère s'entourer de savants Visigoths que de s'entourer de savants irlandais, considérant qu'un Irlandais, ça se dit Scot en latin, il y a un Scot et pas très loin d'un sot, dit-il, alors que les Visigoths sont le symbole même de la culture. Et puis, entre le Xe et l'XIe siècle, on va assister partout en Europe à une sorte de gothique revival avec les Visigoths qui vont être considérés comme le phare de la culture, parce qu'entre le Xe et le XIIe siècle, les armées occidentales mènent une reconquête en Espagne et qu'on mène cette reconquête au nom du passé visigothique pour reconstruire le royaume disparu en 711. Mais évidemment, passé le XIIe siècle, les lumières s'estompent et les Visigoths sont associés à la barbarie. Tant et si bien que lorsque les Italiens du XVe siècle ont besoin de décrire l'architecture française, ils parlent d'art gothique, considérant qu'il ne peut y avoir que des barbares goths pour avoir inventé la voûte à croisée d'ogives. Inversement, ce qu'ils considèrent comme le bel art roman, le
évasion nécessaire, des pensées philosophiques à partager tous les soirs, plongées dans l'histoire et la sociologie solidaire. Jeudi noir. Jeudi noir. Les cures changent l'esprit, on critique la société. Passons au travers des siècles, des idées à cultiver, des luttes et des révoltes, des voix à écouter. Jeudi noir, un vent de liberté.
Bonsoir à tous, et bien sûr Radio Liberté à 89.4, à la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui démarre ce soir avec une émission un peu spéciale, puisque si on a bien compté, c'est la 200e émission de Jeudi Noir ce soir. Bon, c'est pas tout, mais c'est pas rien. Voilà. Alors, on vous propose ce soir une émission qui sera consacrée à un petit livre de Vivien Garcia sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet qui est beaucoup discuté depuis quelques mois, enfin années, mais mois, depuis notamment l'apparition des chatbots type ChatGPT, qui soulève tout un tas de questions, d'enthousiasme, de peur, de frayeur, de voilà. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, mais on a pensé que c'était un sujet plutôt intéressant, et puis qu'il fallait qu'on s'y mette, quoi, hein, et qu'on commence un petit peu à discuter autour de ça. Petite illustration de ça. Alors vous avez entendu, hein, peut-être les auditeurs attentifs ont noté un générique légèrement modifié aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que c'est un complément qui a été ajouté par José aujourd'hui au générique habituel, complément généré par une intelligence artificielle qui donc permet en 3 minutes, hein, nous a dit José, de fabriquer le générique dans le style de votre choix. Donc vous avez un petit aperçu effectivement de cette révolution, hein, qui monte par ce générique. Et puis sinon vous avez entendu un bon vieux morceau fait à l'intelligence 8 de coude de Detroit Emeralds, qui s'appelle You're Getting a Little Too Smart. Toujours pertinent. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait remplacer José? Nous en doutons ici. Alors, ce soir, c'est Michel et Morane qui vont vous présenter ce livre de Vivien Garcia et moi-même pour poser des questions un peu bêtement humaines. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer pour présenter un peu ce livre de Vivien Garcia et nous dire un peu de quoi il retourne. Alors,
bon, Morane refuse de parler, on va la faire parler.
On a les moyens, là, de toute façon, ce soir, on a les moyens.
Alors, on a une lampe torche, et donc c'est un livre de... Alors, qui est écrit, Vivien Garcia, c'est un philosophe, qui aurait écrit, moi je ne l'ai pas vu, c'est Jean-Mathias et José qui l'ont repéré, mais Morane aussi, un livre sur l'anarchisme aux alentours de 2007, c'est ça?
Le titre du livre, tu me le rappelles, Michel?
Donc, si je veux, et c'est incroyable, qu'est-ce que t'es directif ce soir? Alors, alors que, en plus, t'as même pas lu le livre.
J'ai trop bêtisé tout
ça. Donc,
ça,
c'est
moi.
Que faire? Alors, le titre du bouquin sur l'anarchisme, c'est L'anarchisme aujourd'hui. Et le titre du bouquin de ce soir, c'est Que faire de l'intelligence artificielle?
Oui, que faire?
Petite histoire critique de la raison artificielle, c'est publié chez Rivage. Et c'est un bouquin, on est au cœur de l'actualité, qui est de 2024. Je pense que c'est peut-être la première fois que nous présentons un bouquin.
De l'année?
C'est
non,
la
c'est 200e. Pas la première fois.
Bah, si, on va le dire. Allez, c'est.
Il n'y en a pas beaucoup, hein.
C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est un bouquin qui. Alors, moi, je connais absolument rien à l'intelligence artificielle.
Ah, l'intelligence est ni à l'artifice. Enfin,
voilà. Bon, vas-y, il n'y a rien. Et c'est un bouquin qui, pour le coup, offre une espèce de petit panorama historique. Peut-être pas sociologique, pour pas insulter Morane.
Il faut pas la crisper.
Économique.
Faut pas la crisper.
Et comment dire, et aussi sur les différents enjeux de l'IA, qui est plutôt bien fichu, qui est assez court. Ça fait 74-75 pages.
Donc, avec 25 de glossaire.
Avec 25 de glossaire, c'est ça, complètement. Mais un glossaire qui est vraiment utile, parce que. T'as un résumé des concepts essentiels, t'as aussi un résultat, t'as un petit index des noms des personnes ayant contribué au développement de l'IA. Donc d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est plutôt bien fait. C'est pas trop jargonnant, Il essaie d'expliquer des choses qui semblent de l'extérieur et pour un ignorant assez complexes. Mais il les explique dans un langage relativement clair. Et il donne aussi un petit peu, mais sans trop insister quand même, une espèce d'épaisseur philosophique à la question. Et il y a qu'un seul aspect qui manque, à mon sens, dans une présentation aussi brève et à visée pédagogique, c'est peut-être le poids écologique de tout ce développement du numérique. Ça, il l'aborde pas, il aborde plein d'autres choses. Donc voilà, globalement, je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu si on s'intéresse à ce thème et qu'on n'y connaît rien.
Bah, c'est tout nous, ça. Hein.
C'est...
voilà. Donc ça colle.
C'est le résumé de Jeudi Noir et de notre vie. s'intéresser à des sujets auxquels on ne connaît rien. Donc voilà, le bouquin, c'est Lydia Garcia, Que faire de l'intelligence artificielle, petite histoire critique de la raison artificielle. Donc, il y a José qui, voilà, on fait comme si José n'était pas là. Et donc, c'est un livre qui commence donc par une petite histoire quand même, et qui va commencer. Alors, ça, j'y reviendrai un petit peu. Oh là là, il y a José qui passe et qui nous perturbe.
C'est la 200e, il est enroulé, moi.
C'est ça, c'est la 200e, il s'en fout. Quoi. Globalement, ça part un petit peu du côté spectaculaire quand même de toutes les annonces qui sont liées à l'intelligence artificielle, qui a été développée essentiellement du côté commercial plutôt que du côté peut-être de la recherche pure ou à visée militaire. Et c'est-à-dire que on essaie de nous la vendre. Et donc il réfléchit un petit peu sur le terme, parce qu'il y a intelligence artificielle. C'est un terme qui n'est pas très très exact, qui est très difficile à définir, qui correspond pas à grand-chose en réalité de ce que font en quelque sorte les applications ou les programmes qu'on utilise aujourd'hui. Et donc son point de départ, ça va être le turc mécanique qui joue aux échecs. Et donc si José perturbe, il y a des gens qui nient cette vérité profonde, mais voilà. Et donc, c'est il y a près de 250 ans, il y a un type qui s'appelait assez connu, Johann Wolfgang von Kempelen, que José et Jean-Mathias connaissent par cœur, ouais, qui a inventé la cour d'Autriche une intrigante machine.
Ah, on a contribué à réintroduire. En fait,
d'accord. Et c'est un mannequin de bois de taille humaine,
oui,
qui surplombait un échiquier. Et en fait, il y avait, en quelque sorte, il prétendait avoir inventé une machine capable de jouer aux échecs.
N'importe quoi.
Ah, allez, vas-y. quelques décennies plus tard, ouais, on s'est rendu compte. Qu'en réalité, sous les pseudo-engrenages de la machine, on pouvait cacher une personne,
ouais,
qui allait jouer aux échecs, mais qu'on ne peut pas voir en ouvrant la machine, parce qu'il y avait un habile jeu de miroir qui permettait de rendre la personne plus ou moins visible. Et donc c'était un trucage complet. C'était pas une machine qui jouait, c'était un être humain qui voyait ce qui se passait sur l'échiquier grâce à des miroirs. Et lui, son sentiment, j'ai l'impression, c'est qu'il y a encore pas mal d'esbroufes quand même dans l'IA, et qu'elle, d'un côté, elle fait des choses les programmes font des choses assez formidables, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment ça. Là, je vois qu'il y a Morane qui brûle d'intervenir.
Non, pas du tout. J'allais juste dire que ça renvoie à l'idée qu'en fait, on ne peut pas encore se passer de l'être humain. Et justement, il prend l'exemple d'Amazon avec son travail invisible, dont tu parleras sans doute après.
Merci Morane. Et donc, ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'effectivement, l'humain est encore aussi en jeu dans l'IA à plein de niveaux qui sont souvent cachés et qui sont souvent assez dégueux, en fait. Parce qu'il aborde assez rapidement tout le problème du, en quelque sorte, comment est-ce que les humains travaillent pour que ce qu'on appelle l'IA ait l'air d'une IA. Donc, je pense que ça, c'est pas inintéressant et c'est relativement bien arrimé aussi à l'histoire du développement de l'intelligence artificielle.
Qui commence en Turquie, donc.
Non, cours d'Autriche. Suis. Avec, le turc mécanique, okay, qui était sans doute une expression du racisme profondément enraciné chez les Autrichiens, qui s'imaginaient que naturellement, les Turcs, même mécaniques, jouaient bien aux échecs. À l'époque. Et donc, il y a ce petit début où il dit, voilà, l'IA, c'est entre la science et le spectacle. Et c'est vrai que là récemment, par exemple avec ChatGPT, on a l'impression d'avoir affaire aussi à une entreprise très spectaculaire où on va nous promettre un peu monts et merveilles. Et alors ensuite, à partir de là, il y a un petit chapitre de présentation historique parce qu'on se dit quand est-ce que ça commence tout ça. Et on serait tenté de, et lui d'ailleurs il le fait un petit peu, de partir de la cybernétique. Avec, où en quelque sorte on étudie les rétroactions dans un système où... Non, c'est pas ça ?
Si, si.
Science du système, on va
science
dire.
Du système, science du système, quoi. Et donc, voilà. Et parce que je voyais Morane qui faisait la grimace quand j'ai dit ça.
Il pas chauffer sur la cybernétique.
Et donc...
Ça,
donc voilà,
il y a peu de sujets sur lesquels vraiment tu ne rigoles pas, mais la cybernétique en fait partie.
Ouais. Et donc, au sujet de la cybernétique, donc, si c'est produit, ce qu'il raconte, c'est qu'à l'été 1956, voilà, Jean-Mathias était tout jeune, durant quelques semaines, une vingtaine d'individus, tous des hommes, ça aussi, ça fait partie des petites remarques qui sont intéressantes sur qui, en quelque sorte, a inventé tout ça, converge au Dartmouth College, prestigieuse université privée du nord-est des États-Unis. Et là, il y a une certaine diversité. Vous avez, pour le coup, il y a des mathématiciens, des logiciens, des ingénieurs, des neuropsychiatres. Et leur idée, c'est faire en sorte que les machines utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent toutes sortes de problèmes pour leur réserver aux humains et s'améliorent d'elles-mêmes. Et donc, en 1956, ils feront aucune découverte, parce que le projet est encore beaucoup trop complexe, sans doute par rapport aux moyens techniques dont ils disposent. Mais malgré tout, ça va être, ça va être un peu une espèce de coup d'envoi. Même s'il y a aussi des choses qui, à la grande époque de la cybernétique, avaient peut-être préfiguré un peu tout ça. Avec,
L'aspect interdisciplinaire.
Ouais, l'aspect interdisciplinaire. Le fait aussi que c'est des projets qui sont très théoriques, qui ne sont pas forcément liés, par exemple, à la robotique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de machines, on n'a pas encore... c'est pas mal de spéculation théorique avec des bases logiques, psychologiques et mathématiques. Mais l'aspect technique n'est pas encore là. Et aussi, ce qui fait remarquer, c'est que même si on pourrait penser que c'est pas tout à fait ça, l'un des inventeurs de la cybernétique, ou du moins un des personnages les plus importants de la cybernétique, Norbert Wiener, n'est pas là. Parce que lui, et ça c'est peut-être un aspect intéressant, il semble que l'explosion de la bombe atomique au Japon en 1946 l'a un petit peu dégoûté de la collaboration entre les savants et les universités américaines qui sont liées à l'industrie de l'armement. Et il a...
c'est le cas là de ceux qui sont présents en 1946.
Plus ou moins à ce moment-là, ouais. Et comment ? Et lui, il n'a pas spécialement envie. il dit voilà, il refuse dans une lettre ouverte de publier quelque recherche que ce soit qui serait apte à devenir dangereuse une fois aux mains de militaristes irresponsables.
Il soulève aussi d'autres problèmes qui sont existants aujourd'hui en fait par rapport à l'IA, notamment l'automatisation croissante qui pourrait donner lieu à une espèce de remplacement des machines par des humains par les machines justement. Et il évoque aussi une peur que l'intelligence, alors on ne sait pas encore comment, mais que l'intelligence échappe à ses créateurs.
Frankenstein.
Et voilà.
Et c'est ça, et puis après, voilà, il redoute par ailleurs que les applications économiques et guerrières des artefacts capables de s'autoréguler et de décider par eux-mêmes ne finissent par échapper au contrôle humain, c'est ce que tu disais, justement. Et en fait, c'est Skynet dans Terminator. Enfin, donc, c'est une vieille peur qui vient de là. Et ensuite, lui... et donc, le truc, c'est que ça va en partie couler la cybernétique, en fait, la position de Wiener, qui est résolument antimilitariste, va en partie couler la cybernétique auprès des financements publics américains. Mmh. Ce qui fait que pour les premiers chercheurs en intelligence artificielle, il vaut mieux se distancier de la cybernétique.
Parce que aussi, on est dans un contexte de guerre froide, en fait. Et justement, il le dit qu'à la mort de Staline, la cybernétique perce, en fait, en Union soviétique. Et que donc, dans le contexte de guerre froide, il vaut mieux effectivement s'éloigner de ce terme-là, et d'où l'expression intelligence artificielle qui va émerger.
Ouais, qui commence effectivement, le côté, hop, on se distancie de la cybernétique et on peut commencer à ponctionner des financements, en particulier des financements militaires. Alors on verra que ce ne sera pas toujours le cas, parce que justement ce que je disais sur le côté théorique des recherches sur l'IA, ça va assez vite embêter en réalité les financeurs qui se disent quand est-ce qu'ils produisent des armes capables de tuer des gens avec leur réflexion sur la théorie des jeux. Mais tu les connais, les militaristes, ils sont impatients.
Ouais, ils sont pressés, ils veulent tuer des gens.
Hein. Donc, évidemment, si tu fais des recherches pendant 20 ans avant de pouvoir tuer des gens, ça les intéresse moins. Et donc, ils ne sont pas très, très patients, c'est ça. Et donc, lui, ensuite, il va dire, voilà, il y a une différence malgré tout fondamentale avec entre le projet cybernétique et le projet de l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle ne s'en tient pas qu'à des analogies, finalement, entre des objets techniques et des êtres vivants. Elle va aspirer à faire aux machines ce qui n'est encore réservé qu'aux êtres humains. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment est-ce que, voilà, il s'agit plus que de faire une espèce de modèle systémique qui permet de comparer, je sais pas moi, une chaudière à un être humain. Comment est-ce que la chaudière s'autorégule et puis comment est-ce qu'après, comment est-ce qu'on arrive à la faire penser en quelque sorte. Donc là, donc ça, c'est le tout début du bouquin. C'est sur voilà.
C'est l'idée d'apprentissage, du coup.
Alors non, ça c'est beaucoup plus tard.
C'est beaucoup plus tard.
Il s'agit, en gros, la cybernétique n'ambitionnait pas de faire des machines qui pensent. Ou une machine capable de résoudre des problèmes qui jusqu'ici étaient réservés aux humains. C'est-à-dire que Wiener, il n'envisageait pas de faire, par exemple, un programme qui allait battre Kasparov aux échecs. C'était dans les années 40-50, on n'envisageait pas du tout ce genre de choses, malgré tout. Et avec la cybernétique, en tout cas. Et donc, ici, l'idée, ça va être de produire, en quelque sorte, quelque chose qui serait... plus ou moins, même pas forcément l'image du cerveau, mais en gros, ils vont se poser deux, trois questions. Comment est-ce qu'on pourrait faire développer cette intelligence artificielle qui serait pas humaine? Et là, il y a une distinction qui est absolument fondamentale dans le bouquin, entre deux voies distinctes qui ont permis d'aborder le problème de l'intelligence artificielle. Celui que, en fait, la plupart d'entre nous, on connaît et qu'on assimile, je crois, à l'intelligence artificielle, c'est celui qui a été le plus longtemps dominant et qui est très, très, comment dire, qui est à l'œuvre dans la plupart du... Quand on utilise nos ordinateurs, c'est ce qui s'appelle l'IA symbolique et qui va se concentrer sur les processus mentaux dits supérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est inférence logique. Et comment est-ce que tu programmes finalement une machine pour que elle traite les informations avec tout un tas de connexions logiques entre les informations. Et ça va être la voie algorithmique. Alors les algorithmes, moi je me tiens à ce qu'en dit Vivian Garcia pour éviter de dire trop de conneries. Si par exemple vous triez vos chaussettes en fonction des couleurs, vous utilisez une espèce d'algorithme, genre les chaussettes rouges ensemble, les chaussettes vertes ensemble, vous avez un gros tas de chaussettes au début, et puis vous allez dire rouge ensemble, vert ensemble, jaune ensemble, etc. etc. Et à la fin, vous avez trié vos chaussettes. Ça, c'est un algorithme de base.
Mm-hmm. C'est des procédés qui sont sur des règles logiques, en fait, pour résoudre un problème, quoi.
C'est ça.
Trier.
Et donc, globalement, la plupart des ordinateurs fonctionnent à peu près comme ça, dans un premier temps. Et donc, ils vont être programmés, codés à partir de ces trucs-là. Et ça, c'était la première voie, c'est celle qui a longtemps été la plus prometteuse, parce qu'elle permettait justement à des machines de résoudre des problèmes mathématiques ou logiques. Et là, l'inspiration, elle vient clairement en partie justement de la discipline de la logique. Par exemple, un des premiers ordinateurs qu'on a essayé de mettre en place cette méthode était censé résoudre des problèmes mathématiques posés par Russell et Whitehead dans les Principia Mathematica. Et je crois que l'intelligence avait résolu genre 30 problèmes ou 32 problèmes.
32 sur les 52.
Sur les 52, et même avait trouvé une solution plus élégante que celle de Russell. Et Russell était très très content, genre, oh, c'est bien. Donc Russell, c'est un de nos petits chouchous à jeudi noir, donc. Voilà, quand même, fallait le mentionner. Et donc ça, c'était le premier état, en quelque sorte, de l'intelligence artificielle. Ça va être ça. Et en même temps, il y a une voie connexionniste de l'IA qui s'est développée, mais qui a touché moins de financement. J'ai oublié pourquoi. Morane, tu sais pourquoi?
Justement, parce que c'est plus difficile d'impliquer le connexionnisme pour créer des objets techniques et pour avoir une implication commerciale ou industrielle, en fait. Donc, moins de financement.
C'est quoi le connexionnisme?
Alors,
le connexionnisme, c'est... il dit dans son livre à un moment, si l'IA symbolique prend pour référence l'esprit, des procédés complexes de raisonnement, inductifs, etc., le connexionnisme prend pour référence le cerveau en tant qu'organe, en fait. Et donc, l'objectif, c'est de trouver, d'imiter, en fait, les connexions qu'il y a... en fait, les mécanismes qui sont sous-jacents à la pensée. Donc, ce qui lie la perception et l'action ou la réaction, en fait. Donc, tous les processus biologiques, en fait, qui connectent la perception à la pensée, en fait. Donc, c'est ce qui vient avant la pensée.
Ok, ok. C'est avant la logique. C'est comment est-ce que tu, en quelque sorte, classes les informations de manière plus ou moins consciente, inconsciente, avant de les classer.
Ça va loin. Hein.
En fait, il dit à un moment assez simplement dans le livre, c'est ce qui retrace ce qui se passe quand on porte un verre à notre bouche et qu'on laisse de côté, qu'on analyse ce qui se passe dans les muscles, les tendons, et qu'on se concentre sur le traitement de l'information, quoi. Voilà.
Bon, donc deux voies de développement, connexionniste et algorithmique. Moi, je trouve ça déjà beaucoup. Je vous propose de faire une première petite pause musicale.
Et ensuite, c'est très bien.
Et après, on développera. Sur ce livre de Vivien Garcia, Que faire de l'IA ? Que faire de l'IA ? Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est la 200e émission de Jeudi Noir qui reprend, attention, 200e. Voilà, que dire, 200e émission qui repart pour sa deuxième partie ce soir autour d'un livre présenté par Michel et Morane qui s'appelle « Que faire de l'intelligence artificielle » de Vivien Garcia, l'édition Rivage.
Ton accent espagnol est presque aussi bon que ton accent allemand, Jean-Mathias.
Ah, c'est espagnol. Et vous venez d'entendre un titre bien généré par ChatGPT. Puisque on ne recule devant rien dans cette 200e émission de Jeudi Noir. On parle d'intelligence artificielle alors qu'on y connaît peu. Et le titre...
On recule vraiment devant rien, quoi. Même pas devant l'ignorance, c'est magnifique.
Et le titre que vous venez d'entendre est donc produit par Al, 9000 et les Terminateurs. I am me, I am ChatGPT, the king of punk. Voilà, c'est un morceau... de 2023, généré par l'intelligence artificielle. Alors, ce petit livre de Vivien Garfier, consacré à l'histoire, une histoire critique de l'intelligence artificielle. Donc, vous nous expliquez là que, au départ, il y a la cybernétique, et puis des vues assez spéculatives en fait sur comment essayer de faire résoudre certains problèmes logiques ou de calcul à des machines. Et puis, l'intelligence artificielle va progressivement s'autonomiser un peu de ça, notamment parce que le pape de la cybernétique, Wiener, n'est pas trop favorable à ces usages potentiellement militaristes. Et donc deux voies de développement. Il dit alors d'abord une voie très prometteuse, la voie des algorithmes. Donc là où on a l'intelligence artificielle, plutôt pensée comme une espèce de calcul logique, mmh, mathématique. Et puis une deuxième voie qui apparaît, le connexionnisme, et qui elle a plutôt pour modèle les processus neuronaux biologiques. Alors on rajoute des interactions, on rajoute de la sélection dans les données, et où du coup on n'a plus de lisibilité complète, c'est ça, hein, finalement, entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est-à-dire que
enfin, il y a une lisibilité sur ce qui rentre, sur ce qui sort,
mais entre les deux, voilà, entre les deux, il y a une espèce de régulation, voilà, un peu mystérieuse. C'est pas très important, c'est ça, vous nous dites,
si c'est important, d'accord, important.
Okay. Parce que pendant très longtemps, globalement, ce qui a dominé, c'était la voie symbolique.
Donc la voie
algorithmiques, qui permettait de programmer, de faire des grosses calculatrices, voilà, de plus en plus performantes, capables de résoudre des problèmes. Mais là, on y reviendra sans doute plus tard. Par exemple, le triomphe de ChatGPT, c'est aussi le triomphe de la voie connexionniste. Qui est plus dans, finalement, le traitement et la sélection complexe d'informations. Mais avec après aussi la possibilité de générer des contenus, ce qui n'est pas forcément la même chose que de résoudre des problèmes. Et donc lui, je pense qu'il insiste bien là-dessus, il est assez pédagogique parce que c'est quand même pas évident si on n'est pas du tout, si on n'y connaît rien. Et je pense que donc ça va être, c'est un peu une distinction qui est fondamentale dans le bouquin. Donc ensuite, bon, il développe, évidemment, en tant que philosophe, il va développer deux, trois choses sur la conception que ça suppose de l'esprit. Alors toi, tu disais effectivement, tu faisais plus ou moins la raison comme calcul. Ça renvoie à des théories, philosophiques un peu anciennes. On trouve par exemple chez Hobbes, avec la raison humaine, c'est quoi? C'est additionner et soustraire, finalement, des données. Mais lui, ce qu'il va montrer, c'est aussi que, finalement, par exemple, là... On conçoit moins, ça revient finalement à essayer de comprendre l'esprit humain comme une machine. Ce qui est relativement révolutionnaire par rapport, à tout un tas d'approches où l'esprit était justement considéré comme quelque chose de pas du tout matériel, de pas du tout machinique. Moi, je pensais que ça pourrait être intéressant, chez Descartes. C'est-à-dire concevoir justement l'être humain intégralement comme une machine et concevoir le cerveau comme une machine à calculer. Donc bon, ça c'est un petit passage philosophique qui met aussi les choses un petit peu, je trouve, en perspective. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change dans la façon dont on a de concevoir l'esprit humain? C'est quoi la pensée? Est-ce que, par exemple, penser c'est manipuler des symboles? Ça, je crois que c'est Wittgenstein. J'ai une grosse bêtise, Jean-Math? Tu vois, et donc ça, ce serait par exemple la voie algorithmique. Alors, vous voyez que Jean-Mathias, parfois il ne manque pas de verbe. Là, il a quand même fait un truc genre c'est la première fois.
Je sais pas, une intervention de 17 minutes. Voilà, statistique. Je pense
que c'est la 200e. On arrive enfin à obtenir un borborygme de Jean-Mathias, un borborygme inarticulé. Alors qu'habituellement, ce sont des questions de 10 minutes. Je pense que c'est une grande victoire que l'on peut saluer. Alors que je lui posais en plus une question sur Wittgenstein, qu'il est censé connaître par cœur.
Bon, alors on en est où?
Et donc,
on en est
où, et donc la honte, Jean-Mathias, la honte. Et donc, ensuite, il va se lancer. Bon, il y a tout un truc, ça on va peut-être pas en parler, le perceptron. Le perceptron, tu veux pas en parler, Morane? Mali, tu voulais en parler tout là. Que même si je te forçais à en parler, tu serais prête à dire n'importe quoi.
Oui, le perceptron, c'est un dispositif en fait qui cherche à induire des concepts à partir d'un environnement physique. Donc c'est un peu la quintessence du connexionnisme. Voilà. Ça consiste à produire des machines qui savent reconnaître, enfin c'est ce que ça va donner plus tard, qui savent reconnaître des visages, qui savent reconnaître des lettres, quelle que soit la calligraphie, un C par exemple, un C est un C quelle que soit la calligraphie, bref, c'est ça un perceptron en fait, voilà.
Et en fait aujourd'hui ça a donné naissance à tout un tas de trucs où justement on va essayer d'entraîner.
Ça c'est quoi, c'est quand ça du coup?
Le perceptron c'est les années 50?
Fin des années 50, ouais, 57, Frank Rosenblatt, voilà, qui invente le premier perceptron.
Et qui évidemment, c'est très complexe parce qu'ils ont, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en fait, leurs ordinateurs les plus puissants sont moins puissants qu'un téléphone portable de base.
Et justement, ça questionne, c'est ce que tu disais un peu aussi, là, qu'est-ce qu'on entend par, par connaissance, même par intelligence en fait. Et est-ce que le perceptron est intelligent? Bah, il peut percevoir donc des choses, catégoriser des choses. Et pour autant, contrairement à un humain, il est incapable. Les perceptrons sont incapables d'identifier les choses un peu plus fines qui s'appliqueraient, par exemple, quand on observe une relation humaine entre deux humains, tout ce qui est de l'implicite, par exemple, le perceptron c'est incapable d'identifier ce genre de choses, les jeux de masques entre deux individus, etc. Donc voilà, ça questionne un peu aussi ce que c'est que l'intelligence et à quel point une IA pourrait être potentiellement intelligente.
Et ça, pour le coup, le modèle inductif, là, inductif et donc statistique aussi, j'imagine, assez rapidement, ça c'est du connexionnisme, on est d'accord? Ok. Alors que le modèle algorithmique, c'est plutôt...
Mais non.
Plutôt déductif. J'essaie de...
Ouais. Oui, plus ou moins. Je pense qu'on peut peut-être présenter les choses comme ça.
C'est pas le même type, effectivement.
Alors, il faudrait expliquer inductif, déductif. Ouais. Donc, l'induction, c'est quand on parle de nombreux cas particuliers à partir desquels on va trouver une règle, mettons. Et alors que la déduction, on a la règle posée et c'est à partir, on va déduire quelque chose à partir de la règle et des cas qu'on met sous cette règle. Et donc, globalement, on va dire l'induction, ça part du particulier pour aller vers le général. Alors que la déduction, ça va du général au particulier. Le modèle de base de la déduction étant tous les hommes sont mortels, Socrate est un être humain, donc Socrate est mortel. Mmh. L'induction, ce serait plutôt, j'ai croisé X corbeaux de couleur noire, donc le prochain corbeau que je vais croiser sera noir. Alors je ne suis pas sûr que ça marche, parce que le modèle connexionniste, c'est plutôt, tu as plusieurs couches de réception, en quelque sorte, plusieurs niveaux de réception, disons, d'un premier niveau, et ce premier niveau va soit bloquer les informations, soit les faire passer si ça correspond à ce qu'on attend. Et donc, par exemple, tu fais une recherche Internet, mettons, pour aller vite, tu dis je cherche ça, ton programme va bloquer certaines informations qui ne sont pas pertinentes, il va en faire passer d'autres. Donc là, il y a tout un tas de trucs assez complexes sur comment est-ce qu'on définit une information pertinente. Ou pas pertinente, et au fur et à mesure, en quelque sorte, l'information est sélectionnée ou éliminée à différents niveaux de réception. Et à la sortie, tu ne sais pas ce qui s'est passé, et pourquoi finalement tu as posé ta question, tu as des infos à la sortie, mais tu ne sais pas forcément pourquoi. D'accord ? Et donc je ne suis pas sûr que ce soit un modèle inductiviste, au sens où c'est plutôt un modèle... c'est pour ça qu'on parle du perceptron, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu vas dans ta cuisine, tu cherches le sel, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment tu reconnais la salière? Et ça pas, là tu vas pas procéder par induction, tu vas procéder par élimination sélection. Genre non, ça c'est les poivres, ça c'est le cumin, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et au moment tu vas dire ça c'est blanc, est-ce que c'est le sel? Ah non, c'est le sucre, ou est-ce que c'est la farine? Et petit à petit tu vas éliminer les choses qui t'intéressent pas pour arriver au sel. Mais très très souvent en réalité le processus est tellement rapide que tu sais pas comment t'as fait. T'es juste là, tu fais pouf pouf, hop, je prends le sel.
Oui, ça s'applique à des catégories de problèmes bien précis. Ouais, c'est ça l'idée qu'aujourd'hui, en fait, l'IA, elle se développe surtout dans l'aspect d'une IA symbolique, qui pourrait amener une IA générale, parce que justement, avec le deep learning, avec ces couches-là d'apprentissage rétrospectif un peu à chaque fois, on va pouvoir avoir une IA qui dépasse le cadre pour lequel elle est codée à la base, en fait. Voilà.
Donc,
c'est vrai que ChatGPT qui n'était pas prévu pour jouer aux échecs et qui réussit à remporter les parties.
Voilà.
Ah oui, donc je ne sais pas si José, tu as utilisé le microtech. Donc José disait ChatGPT n'avait pas du tout été programmé, par exemple, pour jouer aux échecs. Contrairement à Deep Blue, qui avait fait grande sensation dans les années 90 en battant Kasparov, champion du monde des échecs de l'époque. Deep Blue n'est pas programmé pour jouer. ChatGPT n'est pas programmé pour jouer aux échecs, contrairement à Deep Blue. Mais il apprend et finalement il gagne des parties. Et donc là, mais là on est sorti un petit peu de l'histoire parce que bon, il y avait.
On a été au perceptron.
On a été au perceptron.
Ouais,
mais c'est pas très très grave. Et ensuite, il y a eu. Justement, ils ont essayé de développer des choses plus complexes comme le GPS, qui n'a rien à voir avec le Global Positioning System, qui était plutôt un General Problem Solver. Donc, avec l'idée que ça, c'est. Là encore, c'est. Alors, c'est l'IA symbolique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à base d'algorithmes et de connexions logiques. Et là, ils vont travailler pendant 10 ans à ce fameux GPS. Et leur idée, ce serait de produire un programme qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Et évidemment, ça ne marche pas. Malgré tout, il y a un progrès, c'est-à-dire que leur programme est relativement polyvalent. Il vient à bout de certains calculs logiques, ou de problèmes de cryptarithmétique. Il résout un jeu mathématique. Mais il faut qu'on ait formalisé pour lui le problème de manière suffisamment précise. C'est-à-dire que malgré tout, ça c'est peut-être une grosse différence justement entre une version algorithmique et une version connexionniste. C'est que justement la version algorithmique, tu as besoin de mâcher entre guillemets le travail. Quoi que non, parce que tu es obligé aussi de mâcher le travail pour le connexionnisme. D'une autre manière. Mais malgré tout, tu es obligé de formaliser l'approche dans un premier temps. Et donc, sinon, ça ne marche pas parce que tu n'as pas présenté le problème comme il fallait à la machine, et donc elle n'en fait rien. Et donc, là-dessus, ouais, Morane, non ? Tu levais la main ?
Je levais la main. Non, mais justement, moi, j'ai pas tout à fait compris, en fait, cette partie-là. Surtout quand il utilise la notion d'heuristique, donc par rapport au GPS, ouais. Là, justement. Ah oui. Parce qu'en fait, il dit quand même que la machine réalise des opérations. En fait, l'output, ce qui va sortir des données qu'on a données à la machine, sont assez imprévisibles, justement. Mmh. Il dit qu'on va lui donner des data, en fait, et que la machine va pouvoir, par un effet d'apprentissage, si j'ai bien compris, mais là, c'est là que je suis pas sûre, va pouvoir réaliser des opérations qui, bien qu'elles n'aient pas été explicitement programmées, vont avoir lieu quand même.
Dans le cas du GPS, là ?
Ouais.
Du fameux GPS. Parce que là, lui, il le relie au truc symbolique. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'être humain qui lui communique, symbolise et formalise pour lui toutes les données du problème, il n'y a aucune chance pour que le programme arrive à un quelconque résultat.
Oui, donc en fait, l'avancée, c'est qu'on a quand même une intelligence artificielle qui arrive à dépasser le cadre de ce qu'on lui fournit à l'origine, mais qu'il faut quand même lui donner suffisamment de data pour que le résultat final corresponde à ce qu'on attend un peu.
Ouais. Et pas seulement en termes de quantité, de ce que moi je comprends.
Et comment on les code,
Et surtout
des règles. Donc il faut lui donner les data et les règles.
C'est ça.
Oui, voilà.
Parce que c'est un des mystères, si j'ai bien compris, en ce moment. C'est qu'en fait, notamment sur ChatGPT, là, t'as des cas où en fait tu poses une question, ChatGPT te sort une réponse qui ne convient pas. Tu demandes dans un deuxième temps à ChatGPT quelles seraient les règles qui permettraient d'aboutir à une bonne réponse. Il te donne les règles. Et ensuite, quand tu fais étape par étape, quand tu lui fais appliquer les règles qui permettraient d'arriver à une bonne réponse, il te donne la bonne réponse. Sauf qu'il ne te l'a pas donné quand tu as posé le problème au départ. Donc ça fait partie effectivement de ces paradoxes de la boîte noire là.
C'est ça dont il faut parler maintenant plutôt qu'après le deep learning en fait.
Ouais.
Ben on en est là de toute façon. Vous en étiez où dans cette chronologie.
Voilà, des 20h12 ouais, d'autres sont
le financement le peut-être
pas l'heure.
Moi je suis une IA.
Putain, mais c'est ça en fait, ce type
ouais, la question du financement. Puis la question
tiens, moi je te donne une règle là. Tu vois, il est 20h12 et donc par rapport au contenu qu'on peut développer, qu'est-ce qu'il nous reste à développer par rapport à ta question? Et, donc, et le truc c'était que après, lui il va par exemple beaucoup parler aussi du rôle des jeux en fait. Parce que très très vite, on s'est rendu compte que les jeux avec les règles et les conditions de victoire étaient un environnement assez propice, assez fertile pour le développement de la programmation.
Parce que formalisé, formel, avec un cadre prédéfini.
Exactement.
Et donc, d'où les échecs, d'où Deep Blue,
d'où les échecs, d'où certains problèmes qui ont pu par exemple être rencontrés avec le jeu de Go qui a été beaucoup plus difficile à formaliser et que très très récemment que les IA justement réussi à le battre, mais c'est justement pas à partir d'un modèle
symbolique.
Le modèle symbolique fonctionnait pas forcément avec le Go parce qu'il y a une reconnaissance de forme qui est impliquée par le jeu de Go qu'on trouve pas forcément dans les échecs. Et le jeu, un truc rigolo, c'est que en fait un des gros progrès justement dans l'IA, peut-être qu'on peut passer directement à ça, c'est que c'est lié au développement des moteurs graphiques. Où en gros, on a pour faire des jeux de plus en plus performants, et en particulier d'un point de vue graphique, pour passer de la deuxième dimension à la troisième dimension, il a fallu développer des cartes graphiques de plus en plus performantes qui étaient capables de faire des calculs important, quoi. Et ce qu'il raconte, c'est que justement, à partir de ce biais-là, quoi, qu'est-ce que t'as, toi ? Il est là en train.
Diablo 2,
alors, on en est à Diablo 4, José. D'ailleurs, c'est une sombre bouse. Mais bon, peu importe.
Non, mais te déporte pas.
José,
te déporte
pas. Sur
on en était,
2,
on en était sur les cartes des années 90,
on était sur les cartes graphiques.
Avec les puissances de calcul inédites.
Avec des puissances de calcul inédites qui ont permis justement des gros progrès, un saut justement dans l'IA. Parce que jusqu'ici, on était. C'est quantique. Oui, d'accord. Oui. Parce que il y avait des gros problèmes aussi en termes de sélection des informations pertinentes par rapport au jeu, qui supposaient des puissances de calcul pas possibles. C'est-à-dire que par exemple aux échecs, si tu demandes à un ordinateur de calculer tous les coups possibles, le souci c'est qu'il y a tellement de coups possibles que il n'a pas forcément une puissance de calcul suffisante pour jouer son premier coup dans le temps d'une vie humaine. Alors j'exagère, mais il y a un peu de ça. Et très très vite, en plus, à chaque coup, c'est démultiplié par le nombre de possibilités qui sont... enfin bon, c'est l'enfer. Et donc, il a fallu commencer à programmer les machines pour qu'elles puissent être capables de discerner les coups pertinents des coups non pertinents. Ce qui était très complexe, parce que, par exemple, tu peux être tenté, je sais pas moi, d'avancer ton pion côté tour, alors que ça n'a aucun sens, parce qu'il faut plutôt essayer de contrôler le centre aux échecs.
Et là, ce qu'il dit, justement, c'est qu'on se rapprocherait un peu d'une intelligence de forme humaine, parce que, justement, on est dans un contexte de rationalité limitée, où l'IA n'a pas toutes les informations disponibles, et donc elle doit quand même faire les choix qui soient les plus pertinents possibles, avec un espèce de raisonnement probabiliste, en fait. Voilà. Et donc, c'est aussi une question qui se soulève et qui revient un peu tout au long du livre, c'est est-ce que l'intelligence de l'IA se rapproche... Dans quelle mesure, en fait, l'intelligence de l'IA se rapproche d'une intelligence humaine ? Et bien là, en partie, dans la mesure où elle est capable d'avoir une intelligence qui s'appuie sur un raisonnement probabiliste, avec une rationalité limitée. Mais le bémol qu'il émet quand même, c'est que finalement, le rapprochement avec l'intelligence humaine a ses limites dans le sens où ça diminue en gros le raisonnement, l'agir humain à sa dimension un peu stratégique, quoi.
Voilà. Et oui, donc le pertinent, c'est le plus probable dans un contexte comme celui-là.
Ouais.
Et c'est là, c'est ce type effectivement de modèle-là qu'on va avoir du coup chez ChatGPT.
C'est ça. Mais alors ça, c'est des choses qui remontent. Alors le développement de ces trucs-là, du fait du peu de succès de l'approche connexionniste dans un premier temps, ça va remonter aux années 80.
D'accord.
En fait, en gros, entre les années 50 et les années 80, on travaille sur des modèles algorithmiques massivement. Et à partir des années 80. Les gens vont commencer à partir sur comment imiter les neurones, en quelque sorte, humains. D'un point de vue, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont essayé de reproduire, en quelque sorte, dans un premier temps, le fonctionnement synaptique littéral. Leur plus grand succès actuellement, c'est qu'ils ont réussi, je crois, à imiter, si on prend le truc vraiment réel, c'est la connectivité dans le cerveau d'une larve de mouche ou un truc comme ça.
Ouais, ouais,
c'est
ça. C'est ça.
C'est,
ça. C'est le maximum qu'on arrive à faire pour le moment.
En 2023.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on est très très loin du cerveau humain réel. Ouais. Par contre, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ces espèces de modèles de boîte noire où, justement, tu as le traitement de l'information que tu mets à l'entrée, tu as une sortie, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux.
Le deep learning.
Le deep learning. Je vous propose de faire une deuxième pause. Parce qu'il est exact, il est 20h17. Je dis ça pour les gens qui aiment les précisions.
18.
Comme Michel. Je vous propose une deuxième pause musicale dans cette émission de Jeudi Noir avant de reprendre cette conversation passionnante sur que faire de l'IA de Vivien Garcia aux éditions Rivage.
It was late December when I first laid eyes on you. I turned you on and then you turned me on too. The sun shone so brightly on your shiny skin. I knew then you'd take me to places I've never been. Places I've never been. Places I've never been. I knew then you'd take me to places I've never been. The love with an AI. Silicon apple of my eye.
Using quantifiable means, I was only zero, you were 53. Honestly,
conundrum. It's really, really shit. What's the point of AI if I can't get down with it? The law of robotics says you must obey me. Processing. It's really unfair of you to express autonomy. Express autonomy. Express autonomy. It's really unfair of you to express autonomy.
AI says it's sci-fi, it's actually Wi-Fi. All in favor?
Aye.
She drinks electric sheep when I go balls deep. She won't like bleep bleep.
I'm in her CPU already.
Are you a replicant? Are you a replicant? But he wants to say yay. I'll pour the Louis tray. Turn the lights down. It's time for touchdown. Once you go AI, you're always satisfied.
Fell in love with an AI.
Sexy Wi-Fi. All in favor? Aye.
Silicon apple of my eye.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans ni mettre ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa 200e, messieurs, mesdames, édition, avec une émission un peu plus folle ce soir, il faut le dire, hein, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de ce livre de Vivien Garcia qui s'appelle « Que faire de l'IA ?». Vous venez d'entendre un titre de John Bee qui s'appelle « Fell in love with an IA ». Eh oui. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un morceau américain de 2020. Et on va parler, pour cette dernière partie de l'émission, on va parler deep learning. Deep learning, puisqu'on est en plein dedans, hein, ChatGPT, deep learning. Alors, qu'est-ce qu'en pense Vivien Garcia?
Alors, bah... tout à l'heure, Morane l'expliquait très très bien hors micro. Et, je vois qu'elle s'éloigne du micro dans un geste particulièrement perfide. Tu me laisses interdit. Mais,
bon, moi, je peux expliquer le deep learning si tu rappelles ce que c'est que le perceptron. Parce que le deep learning, en fait, c'est un perceptron multicouche.
Ah oui.
Non,
mais
en fait,
ça, on sait, ça.
Voilà.
On a tout compris à ce sujet.
Non, mais le deep learning, c'est quelque chose qui finalement est assez, assez facile à partir des données. Qu'on va donner à la machine, il va y avoir un processus d'apprentissage. Et c'est peut-être la partie qu'on maîtrise le moins, la fameuse boîte noire. Voilà, le deep learning, ce serait une espèce de boîte noire. Oui.
Après, ouais.
Vas-y.
En fait, tu vois, qu'on peut introduire un des thèmes qu'il aborde qui est intéressant, c'est que globalement, le deep learning, tu fais rentrer des données. Et en fait, ils attendent un résultat. Et en fonction de la différence entre le résultat attendu et les données rentrées, ils peuvent corriger, en quelque sorte, ce que la machine a fait. Et là, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? C'est le travail humain.
Oui.
C'est-à-dire que, globalement, on va faire travailler tout un tas de gens, presque gratos, pour, justement, par exemple, quand on fait des CAPTCHA sur Google, vous reconnaissez un camion, vous reconnaissez un truc, un bidule. En réalité, vous donnez des données à la machine, non pas pour qu'elle identifie que vous êtes un humain, parce qu'elle vous identifie comme humain à partir d'autres données, mais par contre ça donne des données à la machine pour, par exemple, reconnaître, comme le perceptron, mettons, le camion dans une image.
Ça élargit juste la base de données.
Oui, ça élargit la base de données
à la machine.
Ouais. Et la machine, elle va travailler à partir de là. C'est-à-dire que tu demandes à la machine de reconnaître le camion dans l'image. Tu sais combien il y a de camions dans l'image parce que tu as fait travailler des millions de gens autour du monde à reconnaître des camions, en prétendant leur dire on veut vérifier que vous êtes humain. et à partir de là, tu peux dire bah là, la machine, elle aurait dû reconnaître 10 millions de camions, elle en a reconnu que 8 millions. Et on va corriger, en quelque sorte, à partir de là,
ça
la pondération.
Ça veut dire que c'est pas la machine qui corrige elle-même les règles.
Dans un premier temps.
Si, en fait.
D'accord.
En fait, nous, c'est ça le truc, c'est que on peut fournir une base, et c'est ça qui va conditionner aussi l'efficacité de la machine, c'est la base de données, la quantité de données qu'on émet. Mais justement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que l'humain face à la machine va pouvoir contrôler les inputs, mais pas les inputs, les outputs, mais pas ce qui se passe au milieu. Donc pour contrôler l'output, il va falloir, à travers des réglages fins, changer les pondérations des règles formelles données à la base pour, par tâtonnement en fait, arriver à l'output désiré.
Mais ça, c'est pas la machine qui le fait.
La machine le fait à partir des inputs qu'on lui donne. Mais on ne sait pas comment elle le fait concrètement, en fait.
Okay.
Nous, on va modifier les paramètres des systèmes, etc., jusqu'à arriver à un résultat souhaité.
Et les paramètres, ça va être qu'est-ce qui rend une information pertinente ou non pertinente,
ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu continues à traiter l'information, est-ce que tu l'abandonnes, ouais. Et c'est comme ça que je l'ai compris.
C'est ça.
Je pense que c'est ouais. ça. Et là, malgré tout, tu as toute une partie du travail humain invisible, très mal payé. Et par exemple, pour ChatGPT, c'est de ce point de vue-là, d'un point de vue du, comment dire, du droit du travail, c'est juste un pur scandale. parce qu'on a exploité, je sais pas combien de, en fait, c'est des types qui sont payés ou des gens qui sont payés pour cliquer sur des ronds jaunes et des ronds bleus, histoire de nourrir, de donner la machine, d'agrandir la base de données. Et en fait, une des bases vraiment de l'informatique moderne, ça va être ça, la production de données par les utilisateurs eux-mêmes qui permettent au programme de s'améliorer. En donnant des corrections et en permettant de pondérer l'importance des données globales. Donc il y a une production de données par l'activité en fait, des utilisateurs. Et à partir de là, tu as tout un gros problème qui va se poser. Un problème assez massif, c'est le problème des biais. C'est-à-dire que...
Est-ce que l'IA est neutre ?
Voilà, et la réponse de Garcia, c'est...
Non.
C'est qu'il non. L'IA n'est pas neutre. tout simplement parce que, globalement, alors ça, c'est un truc qui, semble-t-il, énerve beaucoup les fans de l'IA, que sont Musk et quelques autres, qui est que, en fait, c'est compliqué de dire que l'IA reconnaît les données qu'elle traite, parce que ce serait déjà lui attribuer en quelque sorte une conscience. Or, là, pour le coup, c'est juste des processus qui sont purement mécaniques, où il y a juste du traitement de données. Et le problème, c'est que le traitement de données, les pondérations des données pertinentes ou non pertinentes, comment elles sont faites à partir des usages, et donc des usages des utilisateurs et des utilisatrices. Mais à partir de là, tu vas, par exemple, comment dire, tout un tas de biais racistes qui peuvent facilement, ou sexistes, qui peuvent facilement être réintroduits dans les calculs de la pondération de l'IA, parce que, enfin, parce que justement, tu as un usage majoritaire, mettons, qui va être sexiste ou raciste. Et il y a une expérience très très célèbre là-dessus, d'un bot de conversation inventé, c'était par qui, Microsoft ou Google, qui a été rendu mais limite nazi en 24 heures par les internautes.
En 2016.
C'était en 2016. Mmh. Et en une journée, au bout d'une journée, ils ont dû le fermer. Et donc à partir de là, et ça se retrouve aussi aujourd'hui, quand par exemple Facebook ne comprend pas pourquoi leur site favorise les contenus d'extrême droite. ils sont penchés sur le machin et ils ont essayé de le corriger et ça marche pas. On n'arrive pas à corriger ça, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont additionné, comment dire, tout un tas de programmes de façon différente pour faire différentes choses à différents niveaux, et ils se retrouvent avec une espèce de machine qui ne contrôle plus et qui ne comprennent plus. C'est ça qui est assez fou, quand même. Et donc là-dessus, l'IA n'est pas du tout neutre, mais essayer de pondérer l'importance des informations qu'elle va traiter pour nous donner des résultats, c'est un cauchemar. Et là-dessus, je pense que ça fait partie des trucs qui sont intéressants dans son bouquin, c'est que justement, il pose des questions sur justement la neutralité de l'outil informatique et comment est-ce qu'on pourrait y injecter, par exemple, de l'éthique. Sachant que l'éthique, la morale, la politique, tout ça, c'est des choses qui sont sujets quand même à discussion et qui, à chaque fois, justement, devraient donner lieu à des débats. Et est-ce qu'on peut livrer ça à un programme ? C'est pas évident.
Chomsky dit non.
Chomsky
a répondu ça de manière en 8 pages dans le New York Times en mars 2023.
Voilà. On verra ça peut-être dans la deuxième émission où on laissera la parole enfin à Jean Mathias qui sera sans doute capable de nous sortir autre chose que des borborygmes et des blagues. On retrouvera le vrai Jean Mathias.
Le ressentiment de cet homme.
Celui
c'est quelque chose. La négativité biaisée de...
Enfin, voilà. Non mais je pense que c'était comme si c'était une émission sur l'IA, Jean-Mathias aujourd'hui voulait faire le troll. Pour une fois. Donc on vous laisse, après cette émission peut-être un peu fouillie, on espère qu'on a été relativement clair sur...
C'est un point de départ, on va appeler ça un point de départ.
Okay.
Bon, c'était plus clair que ce qu'a dit Jean-Math quand même.
Ouais,
blablabla.
Ouais, blablabla.
C'était plus, voilà. C'était plus court.
Donc c'était Jeudi Noir. Vous pouvez retrouver cette émission formidable qui a à peine été trollée par Jean-Mathias sur Gurdulu Archive.
Gurdulu.org.
Gurdulu.org. Et peut-être qu'on refera une émission sur l'IA où cette fois-ci on torturera Jean-Mathias.
Très certainement. Bonne fin de soirée.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est Musique en lutte qui commence avec une nouvelle émission au format un peu spécial, car nous vous présenterons un ensemble de morceaux féministes et antisexistes. Chaque animateur et animatrice présentera plusieurs titres allant du rap au reggae, en passant par le punk, le rock, la tribe ou encore la chanson. Alors on va commencer avec quelques titres reggae. Le premier est le titre de Sister Nancy, qui est sorti en 1982 en Jamaïque. Bien que la Jamaïque soit une société matriarcale, il y règne à cette époque un sexisme certain qui se révèle également dans le milieu du reggae, alors largement dominé par les hommes. Elle est la première femme DJ, donc c'est pas DJ dans le sens disjockey comme on l'entend en France, mais les DJ sont des MC qui alternent au micro des flows rappés et chantés. Avec ce titre, elle revendique sa place de femme et sa capacité à faire aussi bien que les hommes. On y va avec Sister Nancy, le titre s'appelle Bam Bam.
Ambition. So I make all them a talk about me ambition. Come and say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no no, it's from creation. I told them no no, it's from creation. Bam bam. You come in at the place of me somewhere.